Et une nouvelle semaine dans un univers, dans une structure que vous connaissez peut-être et sans doute même de nom, l'EFS, l'établissement français du sang, qui nous accueille, nous ouvre ses portes tout au long de cette semaine pour découvrir les multiples facettes, les différentes activités de cette structure. Avec nous pour ce premier rendez-vous, le docteur Jean-Luc Deprade, qui est responsable des prélèvements sur le site de Limoges. On va commencer avec une présentation très générale. L'EFS, si on devait résumer en quelques mots cette structure.
Alors l'établissement français du sang est un établissement national qui a été créé en fait le 1er janvier 2000 et qui correspond en fait à la fusion des anciens centres de transfusion qui correspondaient à une organisation d'abord départementale et qui avait été regroupée pour former des unités régionales, et tout ça a été fusionné au sein d'une seule entité nationale, l'établissement français du sang. Cet établissement national est subdivisé en unités interrégionales, et par exemple Limousin est regroupé avec l'Aquitaine. Et il y a en général un site par département. Au niveau du Limousin, il y a un site à Limoges, un site à Guéret, un site à Brive. Alors ça doit représenter, je dirais, 70 à 80 personnes, quelque chose comme ça.
On pourrait penser plus.
C'est-à-dire que une partie importante des activités se déroule à Bordeaux. En particulier tout ce qui est analyse, la réalisation des groupes sanguins, des analyses chez les donneurs, et ainsi que la préparation des produits sanguins.
Alors justement, ces donneurs, qui sont-ils exactement? On a une carte d'identité globale au niveau de l'âge, au niveau du sexe par exemple?
Alors on peut donner entre 18 et 70 ans. Donc je dirais, on a pas mal de dons chez les jeunes donneurs. On observe après un creux, disons, aux alentours 25, aux alentours de la trentaine, je dirais, parce que c'est le moment où on rentre dans le monde du travail, où une famille se constitue, on a des enfants, donc il y a des, je dirais, des contraintes qui détournent un petit peu. Et puis après, les dons redeviennent plus fréquents à partir de 40 ans, jusqu'à ce qu'on puisse donner. Voilà.
Alors, on va se rendre dans notre prochain rendez-vous sur un site de collecte, puisque l'EFS se délocalise. Cali, j'ai envie de dire, va à la rencontre des donneurs pour aller solliciter ses dons. Et on va donc décliner toutes les activités de l'EFS tout au long de cette semaine. Elles sont diverses, quelques points qu'on va pouvoir ensuite détailler dans nos prochains rendez-vous.
Alors, il y a avant tout l'activité de prélèvement. Donc, prélèvements les plus classiques, prélèvements de sang total, ensuite des prélèvements donc un peu plus compliqués qui nécessitent des machines, des séparateurs, donc prélèvement de plasma, prélèvement de plaquettes. À partir de ce qui a été prélevé, on va préparer des produits. On va ensuite également faire des analyses sur ces produits. Et puis, on va aboutir au produit fini qui va être délivré. Donc, il y a une partie délivrance en fonction des prescriptions des médecins. Mais à côté de cette délivrance, il faut faire des analyses. Des analyses, cette fois-ci, chez les patients. Donc, on a une activité laboratoire patient, donc détermination des groupes et puis des analyses qui sont nécessaires pour réaliser des transfusions sanguines. Il existe également donc une partie centre de santé, parce que on va réaliser ce qu'on appelle des aphérèses thérapeutiques, c'est-à-dire des prélèvements particuliers de cellules souches hématopoïétiques chez des patients qui nécessitent la réalisation de greffes, mais aussi chez des donneurs pour greffer les cellules qu'on va leur prélever chez les receveurs. Dans certains cas, elles vont être greffées immédiatement, dans d'autres cas, elles vont être congelées, et donc pour être ensuite décongelées au moment de la greffe. Donc c'est une activité qui est dite activité thérapie cellulaire. Il y a aussi une activité donc recherche qui s'effectue en fait à Bordeaux. Alors il y a une autre activité également, c'est une activité banque de tissus. C'est-à-dire, de la même manière qu'on prélève des cellules sanguines, eh bien, on peut prélever des tissus. Alors, quel type de tissu peut-on prélever? On peut prélever des os, tels que des têtes fémorales. On peut prélever des cornées pour qu'elles soient greffées. On peut prélever également des cellules de sang placentaire. On parle parfois de sang de cordon. En fait, c'est des cellules souches hématopoïétiques qu'on prélève sur le sang placentaire. Et ça va permettre, là aussi, la réalisation de certaines greffes.
On n'imagine pas forcément que l'EFS gère tout ça. Beaucoup s'arrêtent sans doute au don du sang. On va avoir le temps de détailler tout ça tout au long de la semaine. On va commencer par le grand classique. C'est ce fameux don de sang. Le temps de changer de site. Et nous, on se retrouvera dans le courant de la semaine. Deuxième rendez-vous dans l'univers de l'EFS, l'établissement français du sang, qui nous accueille toute cette semaine pour nous expliquer un petit peu quelles sont les différentes activités. Nous parlons bien sûr du don du sang, je crois que c'est ce qui vient à l'esprit en premier lieu. Colette Dupic, vous êtes chargée de promotion du don. C'est un terme d'ailleurs très important, promotion du don. On a besoin de sensibiliser au don du sang.
Ben voilà, tout à fait, c'est absolument indispensable puisque chaque jour des malades sont sauvés, soignés grâce aux personnes qui offrent leur sang. Et il y a trop peu de volontaires actuellement qui offrent leur sang. Il faut savoir que seulement 4% de la population française offre son sang.
Seulement 4%, alors qu'on a une idée de combien peuvent donner?
Tout le monde est susceptible de pouvoir donner. Toute personne âgée de 18 à 70 ans est susceptible de pouvoir donner, puisqu'il suffit d'être en bonne santé. Et tous les traitements ne sont pas contre-indiqués, donc il ne faut pas hésiter à venir se renseigner, à venir nous voir à l'EFS pour connaître toutes les contre-indications au don du sang. Le don du sang, c'est 5 à 8 minutes de son temps, c'est la durée du prélèvement, et la poche de sang sert à sauver une vie ou à soigner un malade.
Alors puisqu'on ne vient pas forcément à vous, vous venez vers les donneurs, là on entend qu'on a changé de lieu par rapport au précédent rendez-vous, on est à la faculté de lettres de Ventoux, à Limoges. Les jeunes, c'est important de venir à leur rencontre et de les sensibiliser, c'est les donneurs de demain finalement, et d'aujourd'hui d'ailleurs.
Ben voilà, le don du sang, ça devrait faire partie de l'éducation, ça doit faire partie de l'éducation, et on doit en parler justement le plus tôt possible, justement pour dédramatiser le geste et que ça devienne un geste naturel dès l'âge de 18 ans, au même titre que le droit de vote.
Le Limousin, par rapport aux autres régions, plutôt bon élève, dans la moyenne?
Oh, c'est un peu plutôt bon élève, hein, c'est dans la moyenne nationale.
C'est pour dire que Colette Dupic travaille bien et ça marche, c'est ça?
Pas du tout, c'est que les gens aussi sont solidaires dans la région, mais je pense qu'il y a quand même énormément de travail à faire pour justement que les gens se rendent compte des besoins quotidiens des malades, puisqu'il faut savoir qu'il nous faut, ne serait-ce que pour Limousin, 700 à 800 poches de sang par semaine, 700 à 800 dons pour soigner les malades de notre région.
Alors, il faut 700 à 800, on en a combien là sur les chiffres actuels?
Eh ben, on fait en sorte justement, nous sommes autosuffisants au niveau national, mais il faut savoir que nous faisons toujours appel en cas d'urgence à notre fichier donneur, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes qui viennent régulièrement donner leur sang à l'EFS. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire et indispensable de sensibiliser et recruter de nouveaux donneurs.
Je vous laisse nous guider vers un médecin qui est de passage, on va le saisir au vol avant qu'il reparte bosser pour expliquer peut-être aussi le cheminement concret de ce don du sang, pour rappeler pour ceux qui peut-être n'ont jamais fait la démarche. Vous nous faites les présentations?
Voilà, alors docteur François Maison-Grande, qui est responsable de la collecte aujourd'hui, donc je vous laisse avec lui.
Merci. Alors, un mot sur le cheminement. Concrètement, comment ça se passe?
Donc, le don du sang, ça se passe en plusieurs étapes. Hein. Tout d'abord, vous avez un questionnaire médical à remplir, hein, et également un questionnaire administratif où il faut rentrer vos données donc administratives. Ensuite, vous passez donc voir la secrétaire, qui va donc enregistrer le donneur informatiquement et lui créer un dossier. Et lui attribue un ticket CODA-BAR. C'est ce qui permet de faire ensuite le lien don-donneur. Voilà.
Une traçabilité de ces poches de sang, on sait d'où ils viennent, effectivement.
Voilà. Ensuite, il passe voir donc le médecin pour un entretien médical. Le médecin va juger de son aptitude à pouvoir donner. Il faut que le donneur ne présente pas de risque pour lui-même à donner. Hein. Et il faut éviter également ce qu'on appelle le risque également pour le receveur.
Et une fois que tous les voyants sont au vert, donc là, on va pouvoir passer à la phase de don qui va se passer juste à côté. Voilà. Donc, on explique le processus.
Donc, une fois que le donneur est jugé apte à donner, donc il passe donc au troisième poste, c'est-à-dire le poste de prélèvement qui est tenu donc par les infirmières.
Donc là, on peut s'approcher parce que là, il y a justement, on est en train d'installer un prélèvement, donc les gestes sont toujours les mêmes.
Voilà, donc vous voyez, là, la donneuse est installée sur un lit, donc l'infirmière est en train de la prélever. Donc vous voyez, les aiguilles qu'on utilise, ce sont des aiguilles spéciales, hein. Ce sont des aiguilles siliconées, c'est-à-dire que c'est un genre de lubrifiant qui permet de ressentir le moins possible la piqûre, hein.
Juste, on va s'intéresser à Justine qui vient de faire ce don du sang. On parlait de la douleur. on est sur des grandes idées reçues. Rassurez-nous, tout s'est bien passé.
Très bien. Je suis inspirée et puis ça va très très bien.
Vous, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici aujourd'hui?
Bah, je considère que c'est un acte, c'est logique, c'est normal. Et si ça peut permettre à quelqu'un d'autre, on va dire, de vivre en quelque sorte, je considère que c'est normal. Je pense que plus de personnes devraient le faire.
Alors votre mission à vous, c'est quoi maintenant, de convaincre les autres autour de vous?
C'est ça. J'ai commencé par mon frère et ça a l'air marché. Donc voilà.
On vous laisse en tous les cas tranquillement pour ce don. Merci beaucoup.
Voilà, donc vous avez pu constater que l'infirmière a prélevé donc une poche de sang. Alors le volume, c'est 450 millilitres ou 480 millilitres en fonction du gabarit et du sexe, voilà. L'infirmière prélève également des tubes. Ces tubes vont permettre de faire des analyses de façon à sécuriser bien sûr le don. Et donc ce soir, une fois que les poches et les tubes ont été prélevés, on envoie tout ça à Bordeaux, puisque c'est Bordeaux qui centralise toute la région Aquitaine-Limousin.
On précise également qu'on ne peut pas redonner tout de suite son sang.
Tout à fait, il y a des délais à respecter entre deux dons de sang, hein, tout simplement parce que le sang doit se renouveler. Hein. Donc les femmes peuvent donner 4 fois par an, et les hommes 6 fois. Et le délai à respecter entre deux dons est de 8 semaines.
Et donc on a une quatrième étape.
Donc la quatrième étape, donc, c'est le passage à la salle de collation.
Oh, c'est le plus dur ça.
C'est après l'effort, le réconfort.
Et puis voilà. Vous n'avez pas lésiné sur les moyens, j'en témoigne.
On fait tout ce qu'il faut, hein, voilà. Donc une fois donc, que le donneur donc, a fait son don de sang, il faut qu'il respecte une période de repos, à peu près 20 minutes, au moins 20 minutes, une demi-heure à la collation, hein, de façon à se restaurer, surtout bien se réhydrater. Donc vous avez tout ce qu'il faut sur la table, hein, de quoi se réconforter. Et puis c'est un moment convivial aussi où les donneurs se retrouvent ensemble, ils discutent entre eux. C'est la convivialité entre les donneurs, entre le personnel de l'EFS. Voilà, c'est très important. Voilà.
Notre troisième rendez-vous au sein de l'EFS que nous découvrons depuis le début de cette semaine. On parlait hier du don de sang qui reste évidemment l'activité la plus liée à l'EFS dans l'esprit du grand public. Mais ce n'est pas uniquement le don du sang. C'est ce que nous allons voir avec vous, docteur Mireille Drouet. Il y a le don de moelle également. Et là, il y a peut-être besoin encore plus de sensibilisation. C'est pas forcément facile pour le sang. Ça l'est encore moins pour le don de moelle.
Oui, le don de moelle est quelque chose qui n'est pas très connu. C'est une démarche différente. Dans un premier temps, on s'inscrit sur un registre et on a besoin d'établir ce qu'on appelle le typage HLA des candidats donneurs.
C'est-à-dire que tout le monde peut donner ou pas forcément ?
Ils peuvent se donner les gens en bonne santé qui sont entre 18 et 50 ans. Et pour qu'on puisse réaliser une greffe, il faut que le donneur et le receveur aient le même typage HLA. Donc au moment où les personnes s'inscrivent sur le registre, on réalise uniquement le typage HLA. Il n'y a pas de prise de sang, c'est un prélèvement de salive. Et il y a 1 million de typages HLA différents. Le typage HLA de la personne qui s'inscrit va être confronté au typage HLA des receveurs. Et ça, sur une base de données française et qui est en interconnexion avec les autres registres. Donc, en gros, on peut dire que c'est un registre qui est mondial. Et si un jour la personne est trouvée identique à un malade, on la recontactera. Il y a une personne sur deux qui s'inscrit qui est un jour recontactée. Et environ 1 à 2% des personnes qui s'inscrivent qui sont effectivement prélevées.
Voilà, on ne fait pas forcément, le don ne se fera pas forcément, c'est simplement qu'on se porte volontaire.
Voilà, on devient un veilleur de vie, c'est-à-dire que si quelqu'un qui a une leucémie ou un lymphome ou une maladie qui nécessite une greffe de moelle a besoin de cette greffe, on est là pour répondre présent à la demande.
Alors, ça fait peut-être peur parce qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens peut-être entre moelle osseuse et moelle épinière. C'est peut-être ça, c'est quelque chose que vous rencontrez fréquemment.
Tout à fait. Alors il y a deux problèmes. Il y a déjà la confusion entre greffe de moelle osseuse et moelle épinière. Et la deuxième chose, c'est que les gens ne connaissent pas la nouvelle technique mise en place depuis 10 ans et qui est la technique de plus en plus utilisée pour collecter les cellules de la moelle osseuse. Alors, il n'y a pas que le prélèvement sous anesthésie générale, qui représente à peu près 15 à 20% des dons, mais il y a aussi un prélèvement par citapérèse, où on donne un médicament qui font sortir les cellules de la moelle pour qu'elles passent dans le sang, et à partir de ce moment, on va les collecter par citapérèse. On donne une seule fois pour une personne qui n'est pas de sa famille. Si on avait un frère ou une sœur qui était malade, si on était le donneur, on peut redonner pour sa famille, mais pas pour une autre personne.
Les besoins, on les connaît, on a parlé des 700-800 poches de sang nécessaires, mais en termes de dons de moelle, quel besoin ?
Alors, en France, il y a l'indication de 2000 greffes de moelle par an. Un tiers de ces patients vont trouver un donneur dans leur fratrie. Parce que la probabilité d'être identique à un frère ou une sœur, c'est pas une chance sur 1 million, mais une chance sur 4. L'autre tiers va trouver un donneur dans les registres mondiaux, en sachant que sur l'an dernier, sur les 700 patients qui ont été greffés de la moelle osseuse, il y en avait moins de 200 qui étaient un donneur français. Les 500 autres donneurs sont venus de l'étranger. Et puis il reste 20 à 30% de patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une greffe parce qu'il n'y a pas de donneur. Donc on a besoin de personnes qui s'inscrivent et on peut comparer avec l'Allemagne. En Allemagne, 3 millions de donneurs. En France, on en est à 190 000.
On a beaucoup de retard à rattraper.
beaucoup de retard pour pouvoir donner et offrir une chance de pouvoir bénéficier d'une greffe à tout patient qui relève de cette indication.
Est-ce qu'au bout de ce don, il y a une vraie belle histoire qui peut se concrétiser ?
Je crois que tous les donneurs qui sont allés au-delà de cette histoire sont très fiers. Je pense particulièrement à plusieurs personnes qui ont donné, dont deux jeunes filles qui ont donné il y a 2 ans. L'une d'entre elles avait des difficultés même pour se déplacer. Elle habitait Brive et vers Brive-Limoges pour venir faire ce don. Elle venait en train, seule, non accompagnée. La maman n'était pas du tout rassurée. Elle l'accompagnait tout au long de son parcours au moment de la cytopérèse et la maman était un peu hésitante. Et c'est vraiment la jeune fille qui portait cette conviction. Et ensuite, tout le monde est très fier. Elle est allée au bout de son histoire et elle a donné pour un malade de l'étranger. Et c'est quand même fantastique de savoir que c'est une chaîne humaine internationale qui reste dans le bénévolat et pas dans le marketing et dans les problèmes financiers.
Avant dernier rendez-vous au sein de l'EFS, nous sommes de retour d'ailleurs sur le site de l'EFS ici à Limoges. Nous sommes à nouveau en compagnie de Jean-Luc Deprat qui est le responsable des prélèvements sur ce site de Limoges. On a parlé du don du sang, on a parlé du don de moelle et puis il y a des dons, des prélèvements qu'on ne peut faire que sur le site parce que ça demande un matériel bien particulier. C'est ce qu'on appelle le don en aphérèse. Vous nous expliquez un petit peu de quoi il retourne ?
Le principe du prélèvement de sang total, on prélève la totalité du sang, comme son nom l'indique, sang total. Bien là, on va recueillir qu'une partie. Alors, il y a des prélèvements de plasma, donc on va ne recueillir que le plasma et on va restituer les globules rouges. Et puis on a également des prélèvements de plaquettes, donc dans lesquels, même principe, on va prélever les plaquettes, on va prélever aussi un petit peu de plasma à côté, mais on va restituer les globules rouges. Donc là, on va sélectionner un des constituants du sang que l'on veut particulièrement.
Alors, la question du néophyte, ça veut dire qu'on ne peut pas prélever le sang total, comme on l'a vu dans l'un de nos précédents rendez-vous, et ensuite faire le tri ?
Alors, dans le prélèvement de sang total, on va ensuite traiter la poche. Et en particulier, il va être séparé en deux composants, le concentré de globules rouges et puis le plasma. Avec un prélèvement d'aphérèse, lorsqu'on prélève du plasma, on va pouvoir prélever un volume de plasma plus important. Et de la même manière, lorsque l'on prélève des plaquettes, on va pouvoir prélever une quantité de plaquettes chez un donneur suffisamment importante pour être transfusée donc à un patient.
Ça se passe plutôt très sereinement, même si on parle de machine, rien de très impressionnant.
Oui, tout à fait. On essaie de faire le maximum pour que ça se déroule au mieux. Et comme vous voyez, certains donneurs regardent la télévision, donc on essaie de les distraire au maximum pendant la durée du prélèvement.
Et pour que ça se passe bien, il faut du personnel qualifié. Là, quand on parle de machines comme celle-ci, un don du sang, des infirmières suffisent. Là, il faut une véritable formation pour utiliser ces machines.
Ah oui, ben, tout à fait. Donc, il faut que une certaine expérience. Donc, par exemple, une infirmière qui va être recrutée, donc va devoir commencer par les prélèvements les plus simples, qui sont les prélèvements de sang total. Va être donc d'abord en double. En général, en une semaine, pour commencer à réaliser des prélèvements et tracer autonomes. Pour les prélèvements en aphérèse, ça nécessite une formation un peu plus longue. Il faut connaître le séparateur. Il y a différents types de séparateurs, différents types de kits. Donc ça nécessite quand même des connaissances, une certaine expérience et aussi d'entretenir les connaissances de façon à assurer d'excellents prélèvements chez les donneurs.
Là, par exemple, une machine telle que celle-ci, donc là, c'est pour...
Alors là, vous avez un prélèvement de plasma qui est en cours.
Donc, qui est en cours avec Pierre-Louis pour se mettre dans la confidence qu'on va aller interroger dans une seconde. Donc là, comment ça fonctionne ?
Alors, vous avez le séparateur, la machine sur lesquelles on monte un kit. Le kit, c'est l'ensemble des tubulures, du bol, la poche dans laquelle va circuler le sang. Et ce kit est à usage unique. Donc, on va prélever donc au niveau d'une veine du pli du coude. On va prélever le sang total et par un principe de centrifugation, on va pouvoir séparer les globules rouges du plasma. Le plasma, on va le recueillir dans une poche et on va restituer les globules rouges. On va le faire cela sur plusieurs cycles. On va avoir 5-6 cycles où on va prélever et restituer. Et à la fin, donc, on va avoir une poche de plasma de l'ordre de 800 ml. Tout est fonction de la taille et du poids du donneur.
Le nombre de poches comme celle-ci, il en faudrait combien dans l'absolu par jour ?
Sur notre site, on réalise aux alentours de 50 prélèvements de plasma par semaine. Alors, le plasma va avoir deux destinations. Il y a du plasma qui va être destiné au fractionnement, c'est-à-dire qu'on va préparer des médicaments tels que l'albumine, des facteurs de la coagulation. Donc là, il y a un laboratoire en France, qui est le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, qui assure la préparation de ce type de médicaments. Et la deuxième destination du plasma, c'est du plasma qui va être destiné à être transfusé à des patients qui en ont besoin.
Alors, Pierre-Louis qui est en train de donner, justement, apprend des choses. On est au courant de la destination, l'utilisation finalement de ce plasma ?
Oh oui, tout à fait. Depuis le début, on m'a bien informé de à quoi ça servait et pour qui ça servait.
Depuis combien de temps vous fréquentez l'EFS, ce geste de don ?
J'ai commencé en 72. J'étais dans une école d'ingénieurs et la Croix-Rouge à l'époque était venue. Et il y avait eu, tout le monde était venu et j'y suis allé avec tous mes collègues et depuis je donne régulièrement mon sang.
Et ensuite on vous sensibilise, on vous demande si éventuellement vous ne voulez pas passer au don de plaquettes, au don de plasma.
Alors don de plaquettes je ne peux pas parce que j'ai fait des allergies et autrement c'est eux qui décident s'ils me prennent du sang ou du plasma, enfin en fonction de leurs besoins.
Vous êtes à disposition.
Complètement.
Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de machinerie, vous nous rassurez, tout se passe normalement, c'est pas plus compliqué qu'un don de sang, un peu plus long ça, simplement.
Oui, oui, parce que, et en plus, auparavant, c'était, ça sortait dans un bras et ça rentrait dans l'autre. Là, maintenant, avec un seul bras piqué, ça permet de lire, de se mettre à jour, de faire sa sieste, enfin, on est tranquille, quoi.
Bon, bah, vous laissez donc tranquillement retourner à la sieste, merci beaucoup. À notre dernier rendez-vous dans les coulisses de l'établissement français du sang, l'EFS, qui nous accueille depuis lundi. Et nous allons terminer la semaine, comme nous l'avons commencé d'ailleurs, avec le docteur Jean-Luc Deprat, qui est responsable des prélèvements ici sur le site de Limoges. Il y a de la recherche, c'est une partie aussi importante du travail de l'EFS. Vous l'avez dit, c'est sur Bordeaux hein, plus spécifiquement. On a parlé de cellules souches en début de semaine, le sang de cordon, le sang placentaire, puisque j'ai appris des termes autant que je m'en serve et que vous voyez que je vous ai bien écouté. En gros, ça, ce sont les dernières avancées. En quoi ça consiste exactement ?
Alors, je vais faire un petit récapitulatif sur les possibilités de greffes qui existent. Les greffes qu'on va appeler allogreffes, c'est-à-dire lorsque l'on va greffer les cellules souches d'un donneur à un receveur. La première possibilité, lorsque l'on veut réaliser donc une greffe, c'est de rechercher dans la famille, et en fait, dans la famille, ce sont les frères et sœurs qui peuvent être compatibles avec le patient. La deuxième possibilité, c'est de rechercher sur le fichier des donneurs de moelle osseuse. Et enfin, il existe donc maintenant une troisième possibilité pour réaliser une greffe, c'est d'avoir recours à ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques qui viennent du placenta et qu'on va prélever sur le cordon des nouveau-nés. Parce que la particularité, donc, c'est qu'il y a beaucoup de cellules hématopoïétiques dans le placenta. Donc ces prélèvements sont réalisés dans les maternités au moment de la naissance et donc il y a des prélèvements qui sont réalisés par exemple au niveau de la maternité de Limoges. Ces prélèvements, une fois réalisés, donc, vont être congelés et donc on constitue ainsi une banque de sang placentaire exactement et auquel on pourra avoir recours lorsque on n'a pas trouvé de donneur intrafamilial, on n'a pas donné de donneur dans le fichier, on peut avoir réalisé des greffes de sang placentaire. Avec ces trois possibilités, il doit devenir possible, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas parce qu'il faut qu'il y ait un fichier de donneurs bénévoles qui soit suffisamment important, il faut qu'il y ait également des banques de sang de cordon qui soient suffisamment importantes, mais on pourra proposer à tous les patients qui peuvent le nécessiter la réalisation d'une greffe.
Si on parle d'avenir, comment les choses risquent d'évoluer ? Est-ce qu'on a une santé qui sera de plus en plus fragile, qui va nécessiter qu'on ait peut-être de plus en plus de besoins en poche, que ce soit de sang total, de plaquettes, de plasma, ou la situation pour l'instant restera sans doute constante par rapport à aujourd'hui ?
Bien, en ce qui concerne les cellules du sang, donc ce sont quand même des cellules complexes que l'on ne sait pas à l'heure actuelle remplacer. L'objectif, ça serait de les fabriquer artificiellement. Alors, il y a des recherches qui se font dans ce sens-là, mais c'est quand même quelque chose de très compliqué. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité, surtout à très grande échelle, de remplacer les cellules du sang, dont les globules rouges ou les plaquettes ou le plasma. Donc, on a besoin des donneurs et on en aura besoin pendant longtemps. Point de vue de la recherche, pour ce qui concerne, par exemple, les cellules souches qui proviennent du sang placentaire, l'un des objectifs est de faire des recherches pour permettre de trouver des moyens de conservation qui permettent de réaliser des prélèvements et de les transporter plus facilement, les stocker dans des banques. Et l'autre également élément de recherche, c'est de multiplier les cellules, en quelque sorte les cultiver, c'est-à-dire à partir d'une petite quantité de cellules, et bien les faire se multiplier pour en avoir une grande quantité qui va être suffisante pour réaliser une greffe.
Donc ça, c'est le travail de la science et on verra ce que cela va donner dans les prochaines années. Ça veut dire que si on reste à aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin de révolutionner les choses ? Est-ce que chacun doit faire des efforts colossaux ?
Un petit geste de chacun serait suffisant pour cloner un approvisionnement régulier. Le but, c'est qu'on ait un approvisionnement régulier. Le plus important, c'est de penser à venir donner régulièrement, sans attendre, je dirais, qu'on fasse des appels. Souvent, lorsqu'on fait des appels, évidemment, ça répond de suite parce qu'on sensibilise et on sent qu'il y a un besoin. Mais le besoin, il existe en permanence, donc c'est utile de venir donner régulièrement.
Voilà, faire ce geste citoyen, puis on a la petite récompense. On est là, en l'occurrence, sur ce site de Limoges, dans la petite partie collation. Hein, c'est la récompense après l'effort. Si vous aviez un message, vous, simplement pour terminer, à transmettre à la fois aux donneurs réguliers, puis à ceux qui ne le sont pas encore, peut-être le message qui résume un peu la philosophie de l'établissement français du sang.
Eh bien, l'établissement français du sang, c'est le lien entre les donneurs et les patients qui ont besoin des produits sanguins. Et donc, venir donner son sang, c'est contribuer à soigner de nombreux patients. C'est un geste qui concerne la collectivité, un geste de solidarité.
Un geste de vie, tout simplement.
Un geste de vie, oui, bien sûr. Tout le monde est concerné.